CJSO 101.7.
La Tribune. Une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Alors, à l'émission La Tribune, aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui paraît prendre de l'ampleur chez nous, celui de l'itinérance à 72 heures de la nuit des sans-abri. Je reçois Guillaume Doucet, qui a fait l'expérience de l'itinérance. Alexandrine Boisvert, qui est superviseure clinique et chargée de projet volet itinérance à la porte du passant. Véronique Carrière, du groupe de ressources techniques en habitation et de la maison L'Ancrage. Véronique Massé, régisseuse en développement social et communautaire à la ville de Sorel-Tracy. Et une dernière, Véronique, on a voulu que je n'aie pas la tâche compliquée, moi qui me mêle tout le temps d'un prénom, il n'y a pas beaucoup de chances que je me mêle ce midi. Alors, Véronique, travailleuse de rue. La Tribune, après la pause.
Grâce à Club Voyage Air-Mer qui célèbre son 50e anniversaire et à CJSO, envolez-vous vers la destination de vos rêves. Courez la chance de gagner l'un des 4 crédits voyage de 500$ ou encore le grand prix, un crédit voyage de 1000$. Gracieuseté du Club Voyage Air-Mer. Pour participer, jusqu'au 31 octobre, écoutez CJSO tous les jours de la semaine et notez l'indice du jour d'Alex Trudel à 8h05 dans Yatsé Matin. En octobre, écoutez CJSO et qui sait, vous pourriez atterrir bientôt dans votre destination de rêve.
Les bons coups, ça mérite d'être souligné. La Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel met en lumière 19 bons coups soumis par ses membres. Jusqu'au 15 octobre, toute la population est appelée à découvrir et voter pour leur bon coup préféré en ligne ou en remplissant le coupon de vote disponible dans votre journal Les Deux Rives. Les coups de cœur du public seront annoncés le 22 octobre lors d'un point de presse. À vous de jouer! Votez pour votre bon coup préféré dès maintenant sur boncoup.ca.
Je sais pas si vous avez déjà admiré les pièces de la collection Elle. Non? Voyons! La collection Elle, c'est une collection de bijoux élégants et de qualité supérieure. Entièrement composés de pièces en argent sterling, elles résistent toutes au ternissage. Et je vais vous dire ce qui rend les bijoux de la collection Elle si exceptionnels, le magnifique rubis qui se trouve à l'intérieur de chaque pièce. Regardez le mien.
La collection Elle, en exclusivité à la bijouterie Daniel Blett Diamantaire, 905 route Marie-Victorin.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
À 18 ans, l'homme qui m'a abusé m'a payé un once de cocaïne. Fait que ma vie adulte a commencé direct comme ça.
Je comprenais pas pourquoi il y avait autant de souffrance dans le monde.
J'ai commencé à m'éteindre tranquillement. La seule chose qui m'émerveillait ou qui me faisait du bien, c'était de boire puis de consommer.
Je me suis brûlé tranquillement pas vite jusqu'à tomber en itinérance.
Moi-même, dans ma vie, avant d'être itinérant, j'avais un grand jugement face aux itinérants.
On a tout le temps la vision que l'itinérant, c'est quelqu'un dans un sleeping bag caché dans un coin, qui se drogue, quoi que ce soit. Ben, ça peut avoir l'air tout simplement de ça aussi. Là.
Les préjugés qui pèsent le plus lourd sur les gens, ce sont les itinérants, c'est qu'ils sont là par choix. C'est pas un vrai choix. C'est un choix par manque de choix.
C'est un monde qui fait peur parce qu'il y a de la souffrance. Puis l'être humain, je pense, aime pas s'approcher de la souffrance.
La majorité sont là parce qu'il y a une histoire en arrière d'eux autres. Puis bien, il faut savoir c'est quoi leur histoire pour pouvoir les aider.
La nuit des sans-abri, en fait, c'est un moment de rassemblement chaleureux où on est juste solidaires entre nous.
C'est la meilleure façon d'afficher, dans le fond, toutes les ressources qui existent.
C'est l'opportunité pour des gens comme moi de donner aux autres sans-abri et de partager mon histoire.
Ça permet d'aller chercher quelques citoyens d'une compréhension différente des sans-abri, tu sais.
C'est ce qui fait qu'après, on a un poids supplémentaire pour démontrer que ça fait aucun sens que dans un pays aussi riche que le nôtre, on a des gens qui dorment dehors en hiver puis qui meurent de froid.
Dans 72 heures, partout au Québec, la nuit des sans-abri va nous sensibiliser à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale que vivent de plus en plus de Québécoises et de Québécois. Elle va donner, la nuit des sans-abri, une voix à ces personnes-là, démystifier les réalités autour de l'itinérance. Elle espère aussi déconstruire les préjugés autour de ce phénomène-là et créer un espace de mixité sociale. C'est aussi, en attendant vendredi, notre ambition, ce midi, à la Tribune. Alors, au micro de l'émission aujourd'hui, Guillaume Doucet, qui a fait l'expérience de l'itinérance. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Alexandrine Boisvert, superviseure clinique et chargée de projet volet itinérance à la porte du patient. Merci d'être là, Alexandrine, et d'avoir travaillé à la présentation de l'émission de ce midi.
Plaisir.
Véronique Carrière, du groupe de ressources techniques en habitation et de la maison L'Ancrage. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Véronique Massé, régisseuse en développement social et communautaire à la ville de Sorel-Tracy. Allô?
Allô?
Et une dernière, Véronique, travailleuse de rue. Vous gardez votre nom de famille pour vous, Véronique, je pense. Hein,
Ben oui, on essaie de pas trop l'étaler, mais je pense que ça commence à être connu de plus en plus. Ça fait 10 ans que je fais ça.
On ne dira pas pareil.
On ne dira pas pareil.
Merci d'être là, Véronique. Réglons donc de quoi en partant. Je disais en intro que le phénomène de l'itinérance paraissait prendre de l'ampleur chez nous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est seulement plus visible, le phénomène, qu'il ne l'était jusqu'à ces dernières années? Qu'en pensez-vous? Pas tous en même temps. Guillaume, je pense, t'as le goût de...
Ben, je dirais que oui et non. Comme tu dis, c'est plus visible. Ça l'a toujours été un sujet. Je prends un exemple dans les années 80. On le vivait aussi à cette époque-là. De nos jours, c'est un itinérant de base, il ne va pas chercher à s'afficher, il va se cacher. C'est un peu peut-être une question d'orgueil à un certain degré, mais quand tu perds tes options, quoi que ce soit... Ouais.
Mais tu ne saurais dire, toi, là, s'il y en a plus qu'il y en avait dans la région, c'est peut-être juste qu'on les voit davantage.
Statistiquement, c'est ça, je ne serais pas capable de dire.
Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Véronique, tu sais, je risque pas de me tromper.
Ben moi, j'allais dire que oui, je pense que ça l'a vraiment augmenté. Là. Comme je disais, ça fait 10 ans que je fais du travail de rue, puis on a vu une hausse marquée de l'itinérance visible, parce que l'itinérance cachée était toujours fait partie de la réalité.
Ah, alors l'itinérance visible a augmenté, visible. Mais celle qui sous un voile, là, pas sûr, hein, c'est ça, c'est difficile à dire.
Bien, c'est pour ça, c'est difficile à comptabiliser. Ouais. On parle de quelqu'un qui dort une nuit chez un papa, une nuit chez un ami, une nuit dans l'auto, une nuit... On a la misère à les comptabiliser, ceux-là, mais l'itinérance visible a vraiment augmenté de façon drastique.
Celle qui n'a pas le même prénom que les autres, Alexandrine, qu'en penses-tu, toi?
Bien, je dirais que même l'itinérance cachée, parce que souvent, on réussit quand même à avoir certains filons, même si on ne sait pas tout, mais fut une époque où est-ce que les hôtels n'étaient pas bombardés de locataires, parce qu'on s'entend, l'itinérance reste que... un hôtel reste que c'est une situation d'itinérance parce que ce n'est pas un toit qui est fixe. Puis là, présentement, les hôtels sont pleins de personnes, finalement, qui prennent logis.
Là, on parle d'itinérance plus de luxe, là, dans le cas des hôtels. Bien là, de luxe, c'est relatif, ça dépend de l'hôtel.
C'est relatif. Oui, oui. Puis une autre forme d'itinérance cachée que qui est moins cachée parce qu'on a une jase avec les gens, les gens qui se louent parfois des espaces commerciaux par pénurie de logements, qui ne sont pas capables d'aller chercher un loft, une chambre ou un 3,5.
C'est-à-dire qu'ils meurent dans un mini-entrepôt, là? Un espace commercial.
Plus des espaces commerciaux. Je vous donne un exemple, un studio de beauté qui se relocaliserait. Bon, ben ça fait quand même un bel espace intéressant pour avoir un lit. Puis souvent, on voit ces personnes-là qui viennent prendre leur douche à la porte du passant.
OK. Véronique Carrière, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la maison d'ancrage Pierre de Sorel? Est-ce qu'il y en a plus d'itinérance? Est-ce que le phénomène a pris de l'ampleur à Sorel-Tracy?
Oui, dans nos deux organismes, autant au groupe de ressources techniques en habitation, où on fait de la location de logements sociaux et communautaires, autant à la maison d'ancrage, où on offre des services pour les jeunes en difficulté, 16-23 ans. On le voit, là, la plupart des gens qui m'appellent sont en situation urgente de trouver un logement au GRT. Bien souvent, ils me disent, si je ne me trouve à rien, je vais être à la rue. Donc, on voit vraiment une augmentation. Là, c'est 5-6 appels de plus par semaine que je reçois de gens qui sont menacés d'être à la rue. Ouais. Et à la maison d'ancrage, la plupart de nos jeunes, là, s'ils ne viennent pas à la maison d'ancrage, ils vont dormir dans la rue.
Véronique Massé, de la ville de Sorel-Tracy. Ouais. Toi, quel est ton point de vue sur la question? Est-ce que le phénomène a pris de l'ampleur?
Bien, ce serait difficile de dire le contraire. En fait, là, on voit une augmentation, oui. J'ai envie de dire oui au niveau de l'itinérance visible, mais je crois, puis Alexandrine, Véronique pourrait le mentionner, mais il y a aussi une diversification. des personnes en situation d'itinérance. Les citoyens en situation d'itinérance, ce n'est pas un profil, ce n'est pas une raison, c'est sans visage, exactement. Mais c'est sans visage, puis on a des gens qui sont travailleurs, qui se lèvent et qui vont travailler, mais qui passent la nuit dans leur automobile, dans les ressources. Donc ça, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Donc oui, je peux pas dire le contraire.
Bon, Guillaume a esquissé un sourire parce que je crois que c'est ce qu'il a fait, lui, passer la nuit dans son char. T'en as fait un camping-car. Là. Mm-hmm. Alors toi, tu as expérimenté l'itinérance et t'en témoignes, Guillaume, sur les réseaux sociaux, dans des capsules produites là, pour la nuit des sans-abri. Qu'est-ce qui t'a convaincu de lever le voile sur cette partie-là de ta vie?
Ben, c'est pas quelque chose qui m'a convaincu, c'est juste que j'avais pas les ressources, les moyens.
Non, mais lever le voile sur le fait que tu aies vécu, toi, l'itinérance. Pourquoi as-tu décidé d'en témoigner? Puis, tu sais, t'aurais pu garder ça pour toi. Puis...
Ben, je dirais que c'est la sensibilisation. Puis, comme on dit, c'est sans visage. J'oserais même dire mille et un visages. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à l'itinérance, que ce soit les salaires, une mauvaise fréquentation, j'en passe.
Là. Toi, l'itinérance, elle est arrivée à quel moment de ta vie? Tu l'as vécu dans ton auto? Comment t'as vécu ça? Comment c'est arrivé puis comment tu l'as vécu?
Ben, comment c'est arrivé? C'est que ça c'est pas arrivé en claquant des doigts, c'est arrivé après une longue lutte. Comme je dis dans ma vidéo, c'est un épuisement moral, physique. Je pense que ça a pris pas loin de 6 ans pour que je me rende jusqu'à ce niveau-là. Dans le fond, j'ai eu une séparation, j'ai essayé de garder la garde de ma fille. J'ai dû changer d'emploi un couple de fois, à un moment donné, la dépression embarque, t'es plus capable de vouloir aller travailler, la motivation perd. Tu cherches d'autres manières, tu demandes à tes amis, alliés, famille. Finalement, t'as l'impression que t'es rendu tout seul parce que t'as plus d'aide pantoute.
Là, toi, finalement, t'as couché dans ton char.
C'est ça. Plus que
pendant combien de temps t'as couché dans ton auto?
Pas loin de 6 mois.
Ben voyons. 6 mois de temps?
6 mois de temps.
Puis tu t'arrangeais comment, là, l'auto? Il n'y a pas de toilette là-dedans? Il n'y a pas de lavabo?
Je trouvais que ce soit au regard sur le fleuve, il y avait la toilette. À un moment donné, j'allais soit dans les épiceries quand que j'allais me chercher à manger, puis j'allais là. On finit par avoir une petite forme de débrouillardise d'une manière ou d'une autre.
Tu stationnais toujours au même endroit ou tu changeais de place?
Ben, j'essayais d'être régulièrement au même endroit parce que la germe que je pourrais dire de comment dire ça, faire de la sensibilisation a quand même un peu parti aussi de là. Okay. Je le vis, je trouve pas de solution, j'ai peut-être une petite forme de soutien, mais non, ça existe, je vais m'afficher. J'ai osé faire ça.
Toi, tu travaillais pendant la même période ou là, tu avais
complètement perdu ton emploi? Rendu à l'itinérance dans mon véhicule, non, je travaillais plus à partir de là.
On couche dans son char sur un banc de parc, dans une tente ou dans un sleeping bag là, sous une bouche d'air chaud, toujours par absence de choix, par absence réelle de choix ou apparente de choix. Puis là, j'ouvre la discussion à tout le monde, mais commençant par toi, Guillaume.
C'est
là,
par manque de choix, je dirais. En
fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Mais c'est une grande question.
Oui?
Je pense que ça se réfère au fait que à partir du moment où on reconnaît que les citoyens en situation d'itinérance, ils ont 1000 visages, mais ils ont 1000 raisons aussi de faire le choix d'aller dans son auto, d'aller dans une ressource, d'aller dans la rue. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller dans une ressource aussi. Tu sais, ça existe quand même. Mais non, c'est une grande question. Je pense pas qu'il y ait de réponse simple à cette question-là.
Ben,
c'était Véronique Massé, alors Alexandrie de Boisvert, maintenant, de la porte du passant.
Bien, très imagé, c'est que tantôt, on parlait, est-ce qu'il y a l'augmentation? Puis la réponse est oui. Puis le facteur de l'augmentation, c'est effectivement le manque de choix. Parce qu'il y a toujours eu un petit peu d'itinérance par-ci, par-là, dans la région, c'était ponctuel. Depuis les 10 dernières années qu'on travaille ensemble, Véronique et moi, je pense qu'on en a côtoyé certains.
Laquelle Véronique?
Véronique, qu'elle
a juste un prénom.
Qui a seulement un prénom, exactement. Et puis, effectivement, je pense que l'augmentation qui est arrivée, c'est vraiment des personnes que c'est un dernier recours, c'est un choix, pas de choix. L'augmentation est vraiment touchée par ces personnes-là.
Il y a vraiment une réalité au niveau du manque de logements accessibles en ce moment qui amène des gens qui auraient d'autres choix, mais qui, là, présentement, n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se louer le logement parce qu'il est trop cher, soit parce qu'ils n'ont pas les références, parce qu'ils ne passent pas au dossier de crédit, parce que finalement, les choix, ils ne sont plus là. Mm. Il n'y en a pas de choix. Il y a un manque de choix. Les choix existent, mais ils sont...
On ne les connaît pas toujours, puis il n'y en a pas assez.
Oui, c'est ça. Puis des fois, les choix qu'on a ne sont pas tous... Ils ne
sont pas nécessairement notre affaire.
Voilà, exactement. Mm.
Et autant que, mettons, un propriétaire ne va pas t'accepter tout de suite parce que, tu es sur l'aide sociale. Là, je vais y repenser. Ah, merci.
Ouais. Au cours de ton épisode d'itinérance, Guillaume, est-ce que tu as socialisé avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que toi? Est-ce qu'il se crée une solidarité entre sans-abri? Tu sais, il y a le réseau d'entraide, comment j'appelle ça, externe, là, qui est très bien représenté ici ce midi. Mais est-ce qu'il y a un réseau interne d'entraide plus informel, spontané?
Mais oui, mais je te dirais qu'entre personnes qui vivent de l'itinérance, créer une forme de communauté, je pourrais dire ça comme ça.
Oui.
On partage la même douleur. Donc, oui, il va en avoir peut-être qu'ils vont piler sur un ou l'autre, mais en termes généraux, on vit tous le même problème. Pourquoi qu'on devrait peut-être chercher à s'entraider ou quoi que ce soit? Puis un exemple, la porte du passant, le monde vient là pour, à un certain degré, même chasser de l'ennui, ils viennent là pour avoir un brin de socialité, puis tu vis des problèmes, on voit une occasion.
Ça fait du bien d'en parler avec des gens qui vivent les mêmes difficultés.
C'est une manière de faire une thérapie de groupe sans en être une.
Ah oui, informel. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à recourir aux ressources, puis à laquelle t'es-tu adressé? Là, t'as nommé la porte du passant, est-ce que c'est à elle que tu t'es adressé?
Ben c'est, oui, eux principalement, mais c'est que dans mes heures les plus sombres, dans le fond, il y a une personne en particulier qui m'a donné un soutien. Et puis qu'elle m'a dirigé vers la porte du passant. Ben, veux pas, en itinérance, ben, tu cherches à combattre soit la faim ou ton domicile, moi qui étais le véhicule. À un moment donné, ben, par le ventre, ils vont gagner. C'est aussi simple que ça.
Ouais. La porte du passant, est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'elle a pu, en quelque sorte, te sauver la vie? Aurais-tu pu descendre plus bas que tu étais... Oui, t'étais vraiment
sur une pente j'aurais pu finir vraiment plus bas que ça. J'essaie de ne pas y penser, mais je peux pas le cacher non plus. Ça aurait pu devenir bien plus grave que ça.
Aujourd'hui, est-ce que tu as un toit?
Oui, aujourd'hui, j'ai un toit, puis c'est encore grâce à la porte du passant qui, dans le fond, m'ont aidé à trouver un logement à prix modique. J'ai pu m'installer là, puis c'est grâce à ça que, dans le fond, une fois un toit sur la tête, retravailler mes ressources, j'ai pu me relancer à mes études par après.
OK. Véronique, il y en a trois qui me regardent. C'est tellement le fun. Véronique, travailleuse de rue.
Oui.
Parle-moi de ton travail. Comment tu interviens auprès des personnes sans-abri? Comment tu tisses des liens avec elles? Qu'est-ce que tu leur offres?
En fait, c'est d'être présent dans leur quotidien à la base. Toujours sans jugement, de tendre la main pour les amener vers les ressources qu'elles ont besoin et vers le chemin qu'elles veulent bien faire. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas avec pour t'en sortir, faut que tu fasses ça, puis viens, je vais t'amener. C'est vraiment, tu sais, d'être présent, de jaser avec eux, puis par la bande, à un moment donné, ils vont me dire, tu sais, moi, t'as pas de carte d'assurance maladie. OK, gars, viens, moi, j'ai une ressource pour la faire, puis je vais faire sa carte d'assurance maladie. À un moment donné, ils vont me dire, écoute, tu sais, je me rends compte que finalement, il commence à faire plus froid, je sais pas où aller. OK, viens, je vais t'amener à la porte du passant, le refuge est là. Fait que finalement, c'est vraiment selon les besoins au quotidien qu'ils vont m'exprimer, où là, je vais les accompagner vers la ressource qui peut les aider. En fait, vraiment comme le filon de transition vers toutes les ressources.
L'espèce de trait d'union. Mais ta main tendue, est-ce qu'on l'accueille à bras ouverts ou on l'accueille souvent avec beaucoup de réserve puis de réticence?
Je vous dirais que le travail de rue est quand même assez reconnu partout à travers le Québec. Puis là, à Sorel, comme je disais, ça fait 10 ans, fait que je commence à être quand même assez connue dans le milieu. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas long. Ma personne, si elle me connaît pas, comme Guillaume disait, il y a un réseau qui se forme entre les itinérants.
Oh, oui.
Donc, ils vont se parler. Vous allez dire, Véro, tu fallais l'avoir, elle est super correcte. Lien se fait vraiment facilement. Puis bien souvent, j'ai même pas le temps d'aller vers eux, que c'est eux qui viennent vers moi. Là.
On dit de l'itinérance, puis on l'a nous-mêmes répété pendant l'émission, qu'elle a 100 visages. Guillaume disait même, lui, 1001 visages. La nuit des sans-abri en a fait son thème. Est-ce qu'elle a, par ailleurs, à Sorel, un visage, je dirais, prédominant? Tu sais, un sexe prédominant, une condition physique prédominante? Quand on dirait, toi, tu dis non, Véronique.
Non,
là.
Je pense pas.
C'est pas ce que tu constates dans la rue, là.
Non, non. Tu sais que on va peut-être compter plus d'hommes que de femmes.
Oui.
Toujours en itinérance visible, c'est parce que je pense que les femmes ont des ressources pour se trouver un logis que peut-être les hommes n'auraient pas. Mais c'est plate, mais c'est la réalité qui fait qu'on les voit peut-être un peu moins dans nos services, mais elles sont là, elles existent aussi, puis peut-être la maison, la source, si elle serait là aujourd'hui, pourrait en témoigner, là. Mais nous, dans mon quotidien, dans la rue, je vois plus d'hommes que de femmes.
Sinon, un groupe d'âge plus représenté? Non.
C'est vraiment de 17 à 80 là, dernièrement.
Alexandrine, oui. Tu dis quelqu'un de 80 ans que vous avez eu dernièrement.
Oui, qu'on a hébergé à la Porte du Passant. Oui, les personnes âgées, c'est ça commence à se voir de plus en plus, ce qui est quand même assez difficile aussi, là, parce que des fois, les personnes, tiens, c'est un dortoir, donc il y a des lits superposés, ça prend une autonomie fonctionnelle, c'est un très grand enjeu, là.
Ouais.
Oui, tout à fait.
Au GRT, on commence à voir des familles. Il y a des familles qui sont éclatées par le fait qu'ils sont à la rue parce qu'ils ne se trouvent pas de logement. Donc, ce que je vois souvent, c'est, exemple, la mère part avec le jeune bébé à la maison La Source. Le papa s'en va avec les deux garçons chez des amis. Et les familles sont éclatées comme ça. Ils ne peuvent pas se voir pendant des mois parce que des fois, l'ami n'habite pas dans cette ville-ci. On voit vraiment le visage de l'itinérance a vraiment changé. C'est vraiment transformé. Puis, quand on voit ça, là, des familles qui sont éparpillées un peu partout pour pas que les enfants dorment dehors, ça crève le cœur.
Véronique Massé,
oui?
Un visage prédominant ici, à l'itinérance ou pas vraiment?
Bien, je pense qu'on... En fait, au niveau de la ville de Sorel-Tracy, s'il y a une chose que l'itinérance, l'augmentation de l'itinérance a mis en lumière, c'est certainement l'importance du partenariat puis l'importance du travail collectif qu'on fait, puis je suis à la même place, en fait, parce qu'on travaille et c'est rendu quotidiennement, là. Quand ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé avec Sandrine et moi, on s'est dit, mon Dieu, on s'ennuie, tu sais. La même chose pour Véronique, on se texte, fait que, tu sais, je dirais la même chose, là. C'est majoritairement des hommes, quand même, mais l'itinérance cachée, puis ce qu'on entend aussi, c'est, tu sais, Véronique a nommé la maison La Source tantôt, mais il y a une grande pression présentement dans les organismes qui offrent de l'aide. Qui offrent de l'aide et qui offrent, les organismes qui ont des chambres ou qui ont des toits, ils ont de la misère due au manque de logement.
Il n'y en a pas une tonne de ces organismes.
Il n'y en a pas une tonne.
Il y a la
maison oxygène.
Maison oxygène, à Porte du Passant.
Exact.
Puis la nouvelle ressource là, au coin de Prince.
C'est que c'est un phénomène qui est au travers du Québec.
Oui.
Quand tu nommes les ressources, ça, c'est vraiment les ressources de partout, que ce soit à Longueuil, à Montréal, à Saint-Hyacinthe. Tout le monde est en débordement présentement.
Il y a des fois, on n'a pas le choix d'aller à l'extérieur pour trouver des ressources parce que le manque se fait sentir ici. Et l'extérieur aussi nous contacte parce qu'ils n'ont plus de place ailleurs. Donc, ils doivent s'étaler soit vers nous, vice-versa. On n'a pas le choix de collaborer avec les autres villes autour.
D'accord. Nous allons aller à la pause, si vous le voulez bien, et on revient immédiatement après.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Formédica, qui possède une usine et un centre de distribution à contre-cœur, voit sa relève assurée par la famille Bergeron, des entrepreneurs québécois qui ont fait leur preuve dans le secteur des équipements médicaux au Québec. Formédica conçoit et fabrique une gamme de produits qui se retrouvent dans plusieurs pharmacies. Des attelles, bandages, produits d'aide à la marche ou encore de sécurité. L'entreprise compte plus de 30 employés. Les frères Nicolas et Anthony Bergeron et leur père Sylvain se disent honorés de la confiance que leur accorde Raymond Fortin, qui a fondé l'entreprise il y a plus de 50 ans, pour lequel il était important de vendre à des intérêts québécois. La famille Bergeron se dit fière de prendre le relais de ce fleuron établi en 1972, qui soutient au quotidien des milliers de personnes grâce à sa gamme de produits spécialisés.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Mardi, dans Valérie l'après-midi, la vétérinaire Caroline Kisdan qui quitte son poste au service animalier Pierre de Sorel et Région. Une session en studio pleine d'émotions pour Chloé Leclerc et les quêtes de Mélanie Raté-Bisaillon.
Valérie l'après-midi, une présentation de climatisation Jimmy Chassé.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
On s'intéresse ce midi à l'itinérance à l'émission. M'entoure Guillaume Doucet, qui a fait l'expérience de l'itinérance. Alexandrine Boisvert, superviseur clinique et chargée de projet volet itinérance à la Porte du Passant. Véronique Carrière, du groupe de ressources techniques en habitation et de la Maison L'Ancrage. Véronique Massé, régisseur en développement social et communautaire à la ville de Sorel-Tracy. Et une dernière Véronique, Véronique travailleuse de rue. Alexandrine, le volet itinérance a pris à la Porte du Passant là, beaucoup d'importance. Il y a d'abord eu le dortoir aménagé dans vos locaux sur la rue Phipps, puis plus récemment la conversion rue Charlotte au coin d'Élisabeth de l'ancien restaurant L'Aquarelle en chambre. Commençons par le dortoir. Combien il accueille de personnes, Pierre, à raison de combien de jours par semaine, pendant au maximum combien de jours, puis avec quel encadrement et quel service connexe? Ça, c'est toute une question. Hein?
Toute une question.
Plusieurs volets.
Oui, en fait, l'hébergement à la Porte du Passant, c'est un 13 lits qui est offert, mais on est aussi là.
Vous avez augmenté le nombre de lits, parce qu'il me semble que quand vous avez participé...
Au début, tout à fait, oui, c'était 6 au début. Donc, c'est 13 lits qui est offert et on est aussi une halle climatique. Donc, une halle climatique, en fait, c'est que nous, on accueille les gens, que ce soit en hiver, c'est un halte chaleur, été, halte fraîcheur. Donc, finalement, on est toujours ouvert aux personnes qui ont besoin de se loger un toit. Donc, oui, les gens peuvent venir dormir, mais on arriverait avec une personne qui aurait plus de lit, pourrait quand même s'asseoir avec un café puis passer la nuit avec nous pour offrir un endroit chaud ou un endroit au frais, là, selon la saison. Donc, ça, c'est le volet rapidement là, pour oui. La Porte du Passant.
Mais est-ce qu'il y a un nombre maximum de jours pendant lesquels on peut coucher à la Porte du Passant ou ça n'existe pas?
Malheureusement, non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Il y a un encadrement, il y a des services connexes.
Oui, tout à fait. Les gens peuvent faire une demande de service au programme Deuxième Ligne, dont Véronique, la travailleuse de rue, travaille en collaboration avec nous. Les personnes qui sont intéressées ont un suivi. Puis, dans ce suivi-là, quand on a des chambres de libre, on a deux appartements de transition où on peut... que la personne dont Guillaume avait fait l'expérience...
On va parler de ça tantôt. Je vais vouloir, avec Véronique Massé, dans un instant, aborder la question du rapport des citoyens avec les personnes en situation d'itinérance, de leur relation avec le phénomène. À plus petite échelle, Alexandrine Boisvert, à plus petite échelle, à l'échelle de votre organisme, comment les habitués de la cafétéria communautaire ont accueilli cette nouvelle mission que se donnait la Porte du Passant?
Relativement très, très bien, parce que avant de tomber, en fait, en tant que vraiment hébergement d'urgence, on a fait un AGE avec les membres et ils devaient passer au vote si on accueillait dans nos nettes patentes la nouvelle mission d'hébergement d'urgence d'itinérance.
Ah ouais, vous les avez consultés?
Donc, il y a eu une consultation.
C'est démocratique,
tout à fait.
Votre affaire.
Oui, et à l'unanimité, pardon, ça a été accueilli que finalement, on pouvait ajouter ce volet-là.
Unanimité?
Tout à fait.
Mais bien. Déplaçons-nous donc à l'ex-restaurant L'Aquarelle, là, coin Charlotte et Élisabeth. À cet endroit, ce sont des chambres qu'on met à la disposition des personnes sans domicile fixe. Est-ce que c'est une étape avant qu'elles puissent intégrer un domicile fixe, un step de plus que le dortoir? Là?
En fait, pour l'instant, c'est ce que ça a servi. C'est ce que ça a dérougi finalement le dortoir. Donc, les 9 personnes qui étaient en hébergement ont pu s'installer dans ces chambres-là. Ces chambres, ils sont vraiment bien pour ceux qui ont pu le visiter. Là, il y a
magnifique.
Des gens qui pourraient... Tout à fait.
Ah oui.
Donc, quelqu'un qui a juste besoin d'une chambre pourrait continuer là, à se loger là sans problème. Puis ça, pour l'instant, ce n'est qu'un beau succès. À chaque fois qu'on arrive là-bas, le ménage est fait, c'est propre. Les gens font vraiment attention. Puis quand même, c'est 9 personnes qui étaient dans des situations d'itinérance. On aurait pu se demander comment la cohabitation aurait fonctionné, mais jusqu'à présent, ça va très, très bien.
Bon, je vais reprendre mon expression là, de step, là. Vous administrez, puis tu en as touché rapidement un mot, un step de plus des logements supervisés.
Oui, on a malheureusement seulement deux.
Deux?
Deux de transition. Donc,
c'est là que Guillaume est allé, là.
Oui, est allé faire un tour, oui.
Mais comment t'as trouvé ça, Guillaume? Profites-en non pour régler tes comptes, si t'en as réglé.
Ben, dans le fond, comme il dit, c'est un logement de transition pour... parce qu'en manque de lieu, les loyers étaient tellement chers, puis j'essayais d'embarquer sur le programme soutien logement, mais le temps de faire toutes les démarches, dans le fond, c'est ça, on m'a placé à un logement de transition. C'est... pas le logement le plus fou du monde, mais je te dirais que c'est très acceptable, il ne veut pas pareil. Quand tu l'entretiens, il y a certains règlements et compagnie que pour faire bonne œuvre, puis être capable que ce soit quelqu'un d'autre par après quand tu quittes,
oui, oui,
qui peut prendre place.
Oui, oui, je comprends. C'était correct quand t'es parti, l'autre.
Oui, oui. J'ose le croire.
Alexandrine, c'est trop peu, ça, j'imagine, deux logements comme
oui,
ceux-là.
Oui, c'est beaucoup trop peu. Tout à fait, surtout dans les enjeux où est-ce qu'on a des familles qui arrivent à l'hébergement d'urgence. Ça nous est arrivé quelques fois. Où est-ce qu'on ne peut pas laisser des enfants dans un dortoir avec une si grande mixité qui est à haut seuil, là. Donc, ça veut dire qu'on peut, on peut accueillir des personnes qui sont intoxiquées. Donc, c'est pas ce qu'on veut, là, finalement, avoir des enfants à l'hébergement d'urgence. Fait qu'aussitôt qu'on est capable d'avoir un logement de transition pour pouvoir les accueillir le temps qu'ils se retrouvent un logement, c'est un essentiel.
Je veux qu'on s'intéresse aux jeunes personnes. Je me tourne vers Véronique Carrière de la Maison d'ancrage Pierre de Sorel. Les 16-23 ans vulnérables trouvent chez vous de l'hébergement temporaire. Vulnérable, qu'est-ce qu'on entend par vulnérable? Dépeignez-moi donc votre clientèle.
C'est différentes situations que les jeunes vivent, soit parce que le jeune a des difficultés là, familiales, ont des chicanes de famille, ont de la difficulté à vivre chez eux. Des fois, c'est des jeunes qui ont quitté là, la famille depuis quelque temps, puis que là, bon, ben, ils se retrouvent dans la démarche de se trouver un logement. Puis bien entendu, souvent les jeunes n'ont pas de crédit, n'ont pas. Donc, c'est ça, c'est vraiment différentes situations que les jeunes se présentent à la maison d'ancrage. Et c'est sur une base volontaire. Par contre, le jeune qui fait affaire avec la maison d'ancrage doit avoir quand même un certain vouloir là, de faire des démarches. Pour s'en sortir. Nous, on est là en soutien, on est là pour l'aider dans les démarches.
OK, alors souvent, on y retrouve plus qu'un lit, là, à la maison.
Oui, c'est vraiment un accompagnement complet, mais que le jeune doit faire lui-même avec le soutien de la maison d'ancrage. Et c'est sûr qu'il y a des règlements qui sont quand même, tu sais, assez encadrés pour que le jeune puisse rester justement dans son plan de vie, dans ce qu'il veut faire. On peut l'accompagner pour retourner à l'école, faire des papiers, aller chercher justement les cartes d'assurance maladie. Souvent, ça arrive que le jeune les a pas ou même faire ses impôts. Tu sais, c'est compliqué là, pour un jeune qui vient de commencer à travailler puis tout ça, puis que là, il se dit « Oh mon Dieu, j'ai pas fait mes impôts, puis tout ça. » Fait qu'on le réfère à différentes ressources aussi. On travaille avec les intervenants des milieux, puis tout ça.
Et combien de jeunes peut-on accueillir en même temps, les maisons d'ancrage?
Pour l'instant, on n'est pas à grande capacité, parce qu'on peut en accueillir 3, et on a un autre lit d'urgence, là, que c'est sûr qu'on refusera pas. Là, on laissera pas coucher un jeune dehors, puis on va l'installer au pire sur
le divan. Là, vous êtes encore, Véronique, sur la rue de Guévremont.
Oui, on est encore sur
l'aménagement, chemin Saint-Roch, là, dans l'ancienne maison de jeunes, c'est pour quand?
On est dedans, là, on est en train de faire les rénovations là, pour pouvoir accueillir là, beaucoup plus de jeunes. On devrait fonctionner à 9 jeunes qu'on va pouvoir accueillir là, quand on va pouvoir aménager les lieux. Mais c'est ça, si on est dans la rénovation, fait que pour pouvoir là, vraiment que les installations soient fonctionnelles puis adéquates pour pouvoir faire les interventions aussi qu'on a à faire auprès des jeunes.
On va faire une autre pause avant d'entreprendre le dernier segment de cette émission. Véronique Massé, je vais notamment me tourner vers vous dans quelques instants.
Distinguez-vous chaque jour de l'année avec les parures élégantes de la bijouterie Daniel Blatt. Bracelets, boucles d'oreilles, colliers de perles de culture ou encore une montre italienne Maserati raffinée et haut de gamme exclusive à la bijouterie Daniel Blatt. Vous comptez faire la grande demande? Offrez-lui la plus belle bague de fiançailles en diamant ou en or blanc, jaune ou deux tons. Nous saurons vous aider à faire le bon choix pour ravir les yeux et le cœur de l'être cher. Pour des bijoux et montres pour elle et lui, selon vos goûts et votre budget, Bijouterie Daniel Blatt.
Puis, t'achètes-tu un char électrique, finalement?
Je sais pas! On dirait que j'ose pas faire le saut! Là, tu réalises qu'on est en train de sauter en parachute!
Ouais, c'est un peu ironique, hein?
En plus, l'Equinox EV de Chevrolet a jusqu'à 513 km d'autonomie!
Hein? Marie-Lou Wolfe!
C'est moi! Puis, quand on inclut les rabais gouvernementaux, son prix à l'achat est à partir de 41 061 $
Ah, ça, c'est rassurant!
Aussi, les membres Costco admissibles obtiennent une prime de 1200 $ Puis avec ça, là, c'est facile de faire le saut vers l'électrique. Détails et conditions à offrechevrolet.ca!
Hey, Marie-Lou Wolfe, le monde est petit, pareil!
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blatt.
À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, on s'intéresse à l'itinérance ce midi à l'émission en studio. Guillaume Doucet, qui en a fait l'expérience. Alexandrine Boisvert de la Porte du Passant. Véronique Carrière de la Maison d'ancrage Pierre de Sorel. Véronique Massé de la ville de Sorel-Tracy. Et une dernière Véronique, qui elle est travailleuse de rue. Véronique Massé, les tentes puis les campements de fortune. Cet été, là, se sont multipliés sur le territoire de la ville.
Oui.
Il y en a eu comme jamais. Il me semble que c'est moins le cas actuellement. Il me semble qu'il y en a moins qu'il y en a eu. Est-ce que c'est parce que beaucoup de ces personnes sans abri ont finalement trouvé à se loger parce qu'elles ont été prises en charge ou parce qu'elles se sont juste installées dans des endroits moins visibles?
C'est une excellente question, puis c'est sûr qu'au niveau de la ville de Sorel-Tracy, on n'est pas dans l'intervention, on n'est pas intervenant. On connaît la grande, bien pas la grande majorité, mais on connaît une proportion là, des gens qui ont eu des campements au cours de l'été. Je vous dirais que pour ceux que je connais et avec qui on a eu plus un peu à faire, sont encore dans la rue présentement, sont peut-être à des endroits différents. On a quand même une proportion de campements qu'on ne voit pas, qu'on parle sur le bord de l'eau ou dans la forêt. Sur le territoire, mais non, ils sont encore, malheureusement, ils sont encore présents. Malheureusement, parce qu'on voudrait que leur situation ben s'améliore, oui, ben oui, bien entendu.
On a compris pourquoi vous dites malheureusement. Sorel-Tracy
oui.
a peu eu à gérer là, ce phénomène-là par le passé. Elle a choisi de le faire avec, oserais-je dire, humanité.
Oui, tout à fait.
Je pense au discours du maire Péloquin, notamment, que j'ai souvent entendu appeler à la tolérance, à la solidarité,
exact.
À l'ouverture.
Oui.
C'est un enjeu, la tolérance?
Oh, bonne question. C'est un enjeu, oui et non. Pour nous, c'est la base, en fait. Je vous dirais que lorsqu'il est question d'itinérance pour la ville de Sorel-Tracy, on prend tout le temps le temps de nommer que c'est des citoyens en situation d'itinérance. Pour nous, c'est des gens qui ont des droits. Donc, à partir du moment où on part avec cette vision-là, bien, ça teint aussi nos interventions, ça teint nos façons de faire. Est-ce que c'est un enjeu, la tolérance?
Bien, tout le monde ne comprend pas ça, là, que c'est un droit.
Tout à fait.
Beaucoup de monde, je pense, aux réseaux sociaux. Mais vous allez me dire, c'est une plaie, ça, les réseaux sociaux, les spot-up de ce monde. Là, mais on en voit plein de photos là, avec des paniers d'épicerie remplis d'effets personnels puis qui jonchent le sol. Les gens sont pas toujours très tolérants face à ça.
Mais en fait, c'est un enjeu de tolérance, mais je vous dirais... À partir du moment où on s'intéresse à la situation de l'itinérance, bien, on se rend compte à quel point c'est complexe, puis à quel point il y a le droit du citoyen, il y a le droit de la personne en situation d'itinérance, et il y a où c'est là où c'est compliqué, c'est de trouver l'équilibre, il y a où le point de bascule. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est là que c'est complexe. Puis quand on parle de tolérance, bien, La tolérance, pour moi, ben, c'est apprendre à connaître l'autre, c'est de l'ouverture à l'autre, de mieux comprendre, puis c'est comme ça qu'on se positionne. Est-ce que c'est un enjeu au quotidien? Oui, parce que les courriels, les appels, j'en reçois une partie. C'est pas moi qui les reçois tous, mais c'est certainement un enjeu. Puis il va falloir travailler la cohabitation. Ça va faire partie certainement de nos priorités là, dans les prochaines années. Moi-même.
me revient, là, en vous parlant de tout ça, l'image de tous ces effets personnels jonchant le sol devant le Super C.
Oui.
C'est assez impressionnant. Comment on explique ça? Parce que beaucoup de ces effets-là, ils risquent d'être perdus avec les intempéries, la pluie, puis tout ça.
Mais, en fait,
Guillaume, toi, tu pourrais peut-être nous aider à mieux comprendre.
Je vois peut-être la stratégie pourquoi qui s'installe là.
Pour être vu, justement?
Pour être vu, oui, mais c'est surtout qu'il y a avec les magasins qui sont avec des caméras par sécurité. Dans le fond, s'il se fait aborder, quoi que ce soit, il y a quand même une preuve pour les autorités ou quoi que ce soit. Mais là, je sais que ça va plus loin que ça aussi. Mais
il y a de la restauration rapide pas loin. Oui,
c'est ça. Il est bien situé quand même, stratégiquement parlant, pour ça aussi.
Véronique, mais je pense qu'en premier lieu, il faut quand même faire attention parce que je ne voudrais pas qu'on personnalise une situation.
Tu as compris que ce n'était pas l'objet de ma question.
Je pense qu'il faut, d'entrée de jeu, nommer la complexité de la situation de chaque individu qui est en situation d'itinérance. Et cette complexité-là, elle amène à plusieurs facteurs différents. Puis quand on parle de facteurs, ça va du manque de ressources ou du manque de choix de logement, mais ça va aussi vers des situations où il y a des enjeux de santé mentale, où il y a des enjeux de consommation. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce qu'on observe présentement sur le territoire. Puis un peu partout, là, tu sais, oui, il y a la situation Super C, mais il y a d'autres endroits aussi. On a une accumulation de biens. Mais il n'y a pas une réponse simple, puis je voudrais surtout pas qu'on aille vers une situation spécifique ou
qu'on stigmatise quelqu'un ou quelques-uns. C'était pas ça, là. L'objectif, c'est qu'on peut pas. Tout le monde voit ce que j'ai vu, là. Puis il y a beaucoup de lieux connus.
Puis l'idée pour intéressante que Guillaume m'amène.
La bibliothèque municipale à l'extérieur, c'est tout ça, là. Tu sais, aux abords de la piste cyclable, il y en a eu beaucoup. Véronique, travailleuse de rue.
J'allais dire, en fait, c'est que il y a toujours une question de sécurité quand on est en itinérance. Quand on a un toit, on a nos murs, nos portes barrées, nos fenêtres, on est en sécurité dans notre maison. Quand on est itinérant, notre sécurité, c'est les yeux et les oreilles de tout le monde. Donc, quand on s'en va dans un endroit isolé où on n'est pas à la vue de personne, non, on dérange pas, mais on est à risque de se faire agresser, de se faire voler, de se faire attaquer. Donc, en étant dans un endroit visible et public, c'est là où on va se protéger. De dire, il ne m'arrivera rien parce qu'il y a 50 paires de yeux qui me regardent en même temps.
Alors voilà une explication. Je pense que c'est important d'abord de soulever la question parce que c'est vrai, là, quand on s'y arrête, il y a beaucoup d'éclairage, y a beaucoup de monde qui circule. On n'est pas tout seul. Est-ce qu'on en fait suffisamment dans la région en matière de logements sociaux, de logements abordables, qu'on est capable de se payer à Sorel ou on en fait trop? Peu. C'est devenu exorbitant, le coût des loyers, là. Même pour qui travaille et pour qui ne travaille pas à petit salaire. Là,
moi, personnellement, au salaire minimum, j'arrivais à peine. Puis comme je disais, à un moment donné, j'essayais d'avoir la garde de ma fille, payer mon loyer, mes comptes, tout ça, travailler à l'extérieur. Je perdais de l'argent juste sur le transport. À un moment donné, c'est comme ça, je vais-tu y arriver tranquillement? Puis plus que j'avançais là-dedans, moins que je me rendais compte, plus que je me rends compte que non, ça marche pas.
Alors, il y a plus en plus de gens qui ont de la misère à arriver, là, qui n'y parviennent pas. Là.
Mais plus que jamais, c'est une priorité pour la ville de développer du logement social, mais c'est compliqué. On dirait que je dis ça depuis le début de la rencontre, mais c'est complexe aussi. Et c'est long. Mais c'est certain que c'est une priorité, puis c'est un enjeu qui est étudié, observé présentement au niveau de la ville de Sorel-Tracy, ça c'est clair.
Je pense que c'est le souhait de tous les organismes qui travaillent en itinérance d'avoir des logements sociaux accessibles et faciles d'accès. Ça manque cruellement. On est tous dans l'espoir que ça débloque d'une façon ou d'une autre.
Puis quand on parle d'abordabilité, On a c'est l'abordabilité, là, c'est pas juste d'être un petit peu en dessous du marché, là. Là, on veut des logements sociaux.
Ben, je sais bien, le logement abordable, c'est galvaudé, là.
Exactement. Un logement à 1 000 $, c'est pas nécessairement abordable pour quelqu'un qui a un salaire minimum, là. Non, donc, c'est ça. Il va falloir travailler dans ce sens-là, d'avoir des logements plus qu'abordables.
C'est peut-être pour ça que c'est important de parler davantage de logements sociaux.
Là. Exact.
Je prenons un exemple de quelqu'un qui est sous l'aide sociale. C'est 807 $ point barre. Puis on parle de loyer à 1 000 $. Le calcul est vite fait.
T'es vraiment dans le trouble.
Ben, les gens choisissent de manger.
Pour employer le mot trouble, j'en avais un moins.
C'est pour ça qu'un véhicule, comme je l'avais, ça coûtait pas grand-chose pour moi.
Faut pas oublier toute l'énergie quand on est en mode survie. Puis qu'on passe notre temps à calculer comment on va y aller. Tu sais, le stress, la place que ça prend dans la tête de quelqu'un de réfléchir à c'est quoi la prochaine étape, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire. Tu sais, c'est grand. Puis des fois, on se demande, mais comment ça, ces gens-là, ils arrivent à se retrouvent en situation d'itinérance, ils ne sont pas capables de sortir de la situation d'itinérance. Mais c'est extrêmement difficile de sortir d'une situation où il n'y en a pas, où il n'y a aucune possibilité de faire autrement. En tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume.
J'approuve. À 110.
Nuit des sans-abri, les amis, un peu partout au Québec, dont chez nous. Parlez-moi du rendez-vous, c'est au Carré Royal. C'est à quelle heure? Vendredi? Jusqu'à quelle heure? Il va se passer quoi? Alexandrine Boisvert?
Il va se passer pas mal de choses. Ça commence dès 18h. Où est-ce que cette année, c'est JF Sonneau qui a pris la barre pour tout ce qui était l'aspect musical. Donc, il va avoir plein de collaborateurs, là, dont je ne vais pas trop les nommer justement parce que j'ai peur d'oublier des gens, mais je sais DJ La Barbe, il va avoir Gabriel Payet.
Alors, toute la gang, vous avez réussi à toutes les nommer.
Oui, c'est ça. Bref, vraiment une belle programmation musicale. Mais cette année, le coup de cœur va être deux nouveautés. Une nouveauté au niveau du témoignage, donc il va avoir...
Guillaume Superstar!
Tout à fait, Guillaume Superstar. Donc, on va avoir trois bibliothèques humaines. C'est trois personnes, en fait, qui vont offrir de leur témoignage, de leur vécu aux gens. Les gens vont pouvoir venir s'asseoir à côté d'eux individuellement puis leur poser les questions au niveau de leur parcours, au niveau de l'itinérance. Donc ça, c'est vraiment un gros plus au niveau de la sensibilisation puis de l'interaction avec les gens.
OK, ça ne sera pas juste des conférences magistrales. Là.
Pas du tout, pas du tout. Okay. C'est vraiment sous forme... un livre humain, exact. Tu empruntes Guillaume le temps d'un 10 minutes ou est-ce que tu peux jaser avec lui un 5 minutes, un 2 minutes. Donc, on va le faire en collaboration aussi avec la bibliothèque de Sorel-Tracy.
Tu vas être moraide à la fin de la soirée, toi.
Non, je vais me faire même un plaisir d'aller au-delà de 10 minutes.
généreux. Je pense que Véronique, sans nom de famille, vous avez trouvé la liste d'invités.
Oui,
mais
en fait, oui. Mais il va en avoir d'autres, des surprises que JF Sonneau nous organise. Mais nous, on sait que, bon, DJ Labarbe, Gabriel Payet, Marquis Music, Véronique Méthode vont être là. Les autres, on ne les connaît pas. Ça va être des surprises que JF Sonneau organise.
Beaucoup d'organismes communautaires aussi, une vingtaine?
Oui, plus d'une vingtaine d'organismes communautaires, de kiosques qui vont être présents. On va avoir des kiosques alimentaires. Le Bédouin va offrir du fromage. Il va avoir des grillades de fromage. Il va avoir la mutinerie qui offre coupe de barbe à qui le veut.
C'est original, ça.
Tout à fait. Il va avoir des jeux gonflés cette année pour les enfants avec une maquilleuse. Donc, il va en avoir de tout pour tout le
même
monde.
Même un service pour les animaux aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Service pour les animaux de toilettage?
Oui, bien, tu peux expliquer.
Expliquons.
Ben, en fait, c'est le centre vétérinaire du Bas-Richelieu qui se joint à nous cette année. Ils vont offrir des soins sur place, mais en fait, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir donner des vaccins pour les animaux.
Ah oui!
Ils ne les donneront pas le soir même sur place, mais ils vont vous donner des rendez-vous. Donc, vous avez des animaux, puis vous êtes à faible revenu, là, puis vous allez venir nous voir... le vendredi, aller au kiosque du centre animalier, puis ils vont vous donner une date de rendez-vous pour faire vacciner vos animaux gratuitement. De la nourriture aussi qui va être donnée pour les animaux.
Ben bravo aux organisateurs et organisatrices. Je sais que tu y es pour beaucoup, Alexandrine.
On est tout un beau comité.
Oui, tout à fait. Plusieurs.
Un beau comité local.
C'est important, la nuit des sans-abri, Guillaume?
Oui. Surtout parce que comme on dit, c'est un témoignage, mais c'est comme on voit l'entraide que tout le milieu a. il y a une manière de sortir de là, mais faut la travailler. Puis c'est pas en gardant ça pour soi, c'est en partageant, expliquer. Compréhension, tolérance, comme on disait tantôt.
En tout cas, toi, t'es inspirant, vous êtes d'accord avec moi?
Hein? Merci.
Fille, vraiment inspirant. Alors, merci d'avoir été à l'émission, Guillaume. Merci, Alexandrine. Merci au toit, Véronique. Alors, c'est un rendez-vous, Carré Royal, Nuit des sans-abri, à compter de quelle heure, vendredi?
18h.
18h, jusqu'à quelle heure? Parce qu'on dit nuit, là, mais...
23h30. Wow. 22h30.
Puis juste un petit mot comme oui. Si jamais il y a des citoyens qui ont des manteaux, bottes, foulards, tuques, mitaines, sacs de couchage, en trop, on fait une grande collecte ce soir-là pour redistribuer aux gens en situation d'itinérance. Donc, venez nous les porter vendredi soir.
Une autre bonne idée. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour une autre édition de La Tribune. On va s'intéresser la semaine prochaine, enfin... au service de traversier entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola. Hey boy, ouais.
Hey boy.
Non, mais là, regarde, ça va de mal en pis. Là, ça fait des semaines qu'il n'y a plus qu'un seul bateau passeur entre les deux rives. Puis aujourd'hui...
Il n'y en a plus, non?
Les traversées sont annulées pour un problème technique. Je sais pas, mais je pense qu'on est parmi les enfants pauvres de la Société des traversiers du Québec dans la région. On en parle donc mardi prochain. On va tenter d'avoir quelqu'un de la société à cette émission. Alors, bonne semaine tout le monde.